Dans le passé, je mettais toujours, pour mes messages, je les pliais dans une petite feuille comme ça en deux, puis je mettais un titre, ça me permettait de les classer. Depuis, il y a les PC, donc on classe un petit peu différemment, mais sur celui-là, j'aurais bien mis oser, sur celui-là, oser. Puis après, je me suis rendu compte que c'était en fait la suite d'oser. Il n'y a pas oser deux, hein, mais c'était la suite d'oser. Alors, on va lire un texte ce matin qui va s'afficher. Peut-être vous trouvez qu'il n'a pas de rapport avec ce que je vais vous dire. C'est un texte, je me rappelle ce texte aussi longtemps que j'étais dans un groupe de jeunes, de discussion à n'en plus finir avec ce texte. Alors, je ne vais pas parler de ce texte ce matin, mais je trouvais qu'il allait bien. C'est dans l'épître de Jacques. Vous savez, Luther disait que l'épître de Jacques, c'était l'épître de paille. Mais pourtant, dans l'épître de Jacques, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et on lit ceci dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 15. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors ce matin, on a parlé d'oser. Oser, c'est... c'est se lancer, c'est oser mettre le pied sur la corde quand elle passe entre deux petits murs. C'est facile, juste quand il y a 150 mètres de vide dessous, c'est moins évident. C'est donc oser. Et puis, notre foi vit différemment, un petit peu différemment. La première démarche existentielle, significative et visible que l'être fait dans sa vie en se questionnant sur Dieu lui-même, c'est sans doute la repentance, se repentir, l'acceptation de sa situation de pécheur. Ce temps est souvent très proche de la conversion, c'est intimement lié puisque c'est la repentance qui amène à la conversion. Et la conversion qui est la réponse de l'homme donc à ce plan de salut que Dieu a voulu pour lui. C'est ici donc le tout premier pas, le pas de foi, ce pas qu'on ose faire, donc avec toutes les fois que je dis oser, j'ai mon pied qui fait comme ça. Vous savez, oser, même faire le premier pas. Vous savez ce que ça veut dire, faire ce premier pas. Pour certains, c'est sur une échelle, parce qu'ils ont la trouille de la hauteur. Moi, je ne suis pas à l'aise sur une échelle. En montagne, ça ne me gêne pas, mais sur une échelle, je ne suis pas à l'aise. Et le dernier barreau, c'est jamais facile. Enfin, l'avant-dernier, parce que le dernier, c'est dangereux. Mais c'est jamais facile non plus pour moi. Mais c'est ce pas de foi, faire ce pas, ce premier pas, donc. La foi sert à sauver, c'est le but de la foi, elle sert à sauver, à nous procurer l'absolution, la relaxe au jour du jugement. Combien par le passé, dans ce texte qu'on a lu ce matin, je me souviens d'avoir vu ces deux doctrines s'opposer, entre d'un côté les actes et de l'autre côté la foi, comme s'il y avait deux choses différentes. Mais c'était sûrement parce qu'il y avait des raisons de le faire à cette époque-là. Nous faisons donc, lors de notre conversion, ce pas de foi vers Dieu. Un pas unique vers le salut. Un pas définitif, en principe irréversible, mais un pas qui n'est que le premier de notre vie de chrétien, de notre vie en marche vers ce salut. Et c'est important là de se rappeler que notre conversion n'est pas un but en soi dans la vie. Moi, j'ai entendu dans le passé souvent des témoignages qui disaient une litanie de choses, comment les gens étaient avant, Comment ils étaient avant? J'étais dans le monde, j'étais drogué, je faisais un tas de choses mal, je suis même venu chef de bande, et Jésus est arrivé. Et ça s'arrêtait là. Alléluia. Et ça s'arrêtait là. Mais non, la vie chrétienne, c'est pas ça. La conversion, c'est le commencement de cette vie chrétienne. C'est un début. C'est important de se rappeler cela, que notre conversion et le fait d'avoir donné notre vie à Dieu, c'est uniquement le commencement. C'est le premier pas. Et quand on veut marcher, ben on ne fait pas qu'un premier pas. Quand on parle d'un enfant, on parle de ses premiers pas. On ne parle pas du premier. Le premier, c'est rien. Mais c'est le suivant qui est important. Commencement parce que tous les jours, nous sommes en marche avec notre Dieu. Et là, nous avons besoin de faire des pas avec lui. Je vous raconte une petite histoire, c'est juste une histoire, hein, comme ça. De bon matin, un fermier se lève et déclare à son épouse qu'il allait labourer le champ de derrière juste après le déjeuner. Mais comme le tracteur avait besoin d'huile, il partit d'abord à la coopérative à Chevry chercher de l'huile. En chemin, il s'est rencontré que ses cochons n'avaient pas encore été nourris. Alors il se dirigea vers la réserve de maïs, où il vit ces sacs de maïs qui lui firent penser que dans d'autres sacs, il y avait ces pommes de terre qui étaient en train de germer. Il n'avait pas encore eu le temps de les planter. Alors il coura vers la cave à pommes de terre. Mais en passant, il se rappela que sa femme lui avait dit qu'il lui fallait du bois pour le fourneau. Alors il prit une pile de bois, et en se dirigeant vers la cuisine, il vit que l'enclos des poules, la porte était toute délabrée et les poules ne restaient pas dans l'enclos. Alors il alla vite, c'était important, réparer la porte de l'enclos qui ne fermait plus. Et sa femme l'appelait déjà pour l'heure de dîner. Elle lui demanda, alors ce champ c'est fini? Et là il était très très frustré. Et il lui a répondu, j'en avais bien l'intention. Mais... Tous les jours, nous devons nous mettre et nous remettre en route avec Dieu. Ça, c'est une intention. Mais dans notre vie de chrétien, nos actes de chaque jour sont au-delà de notre intention. C'est la mise en pratique de notre intention. Ils sont chaque jour autant de pas de foi que nous devons faire et que nous devons réapprendre à faire jour après jour sur le chemin de l'Évangile. C'est notre foi en marche. Notre foi ne peut être que en marche, qu'on n'imagine pas une foi immobile, une foi où on va rester assis sur sa chaise chez soi sans rien faire du tout. Notre foi est forcément en marche. Au psaume 37, nous lisons plusieurs conseils. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, aie pour demeure et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça, nous connaissons bien. Et puis le verset d'après est important. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Reprenons juste ce verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Ce verset est clair. Il a au moins le mérite qu'on s'y arrête un instant. Dieu nous demande ici de faire un pas de foi l'un après l'autre. Avez-vous déjà essayé de marcher en avançant les deux pieds en même temps? C'est pas terrible, hein? On n'avance pas vite, hein? On avance, mais il faut remonter après, hein? Chute assurée. Que dit ici exactement dans l'ordre de notre texte? D'abord, je me remets devant Dieu. Ensuite, et ce n'est pas la même chose, je mets ma confiance en lui, et ensuite, il agit. Ça, c'est pour notre pas de foi de tous les jours. Pour chaque chose qu'on va faire, l'idéal, il est dans ce verset 5 du chapitre 37 des psaumes. Notez que dans cette sentence, l'idée de l'acte de foi, de l'œuvre, de l'action, appelez-le comme vous voulez, de l'acte, c'est que je ne peux rien faire tout seul. Et en retour, que Dieu ne fait non plus rien tout seul sans moi. C'est important à savoir. Je ne peux rien faire tout seul, mais Dieu ne va pas non plus tout faire pour moi. Et je dois d'abord ici faire le premier pas, le deuxième pas, aussi envers Dieu. Ensuite, lorsque ces deux pas auront été faits, c'est Dieu qui va agir en moi. Mais cette démarche est valable pour tout ce que nous faisons jour après jour avec Dieu dans notre vie. L'important est donc, d'abord, dans mon pas de foi, de faire totale confiance à Dieu. Totale confiance à Dieu. Comprenant que je ne suis qu'un outil, alors tout à fait imparfait, hein, mais je ne suis qu'un outil, un instrument dans ses mains, modelable, comme on lit dans la Bible, comme l'argile est modelée par le potier. Vous avez déjà vu un potier qui monte un vase? Et vous voyez ce tas de terre là, qui monte tout seul. Il ne monte pas tout seul. Il monte parce qu'il y a la main du potier, il monte parce qu'il y a l'argile, et il monte parce qu'il y a le savoir-faire de la personne qui est aussi ici. Combien de fois est-ce que nous avons l'intention de faire ? Je vais faire. Je vais faire. Moi, je vais faire. Tas de choses à faire. Et puis combien de fois aussi, cela n'aboutit pas du tout. Mais peut-être parce que je n'ai pas envisagé ce projet avec Dieu, simplement, confie-toi en l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Qu'est-ce que c'est mon sort, sinon ce qu'il y a devant moi, mon sort ? Je vais faire. Simplement peut-être parce que je veux faire tout seul. Je vais faire tout seul. Mais tout seul, c'est mon idée seule. C'est mon idée à moi. C'est peut-être pas forcément ce que Dieu a prévu que je fasse au moment précis. Peut-être que notre paysan, Dieu n'avait pas voulu qu'il laboure son champ. Vous avez eu le nombre de choses qu'il y avait à faire derrière, encore. Peut-être que ce n'était pas ça l'essentiel pour ce matin-là. Proverbe 16:1, à l'homme les projets, au Seigneur seul la réponse. À l'homme les projets, au Seigneur seul la réponse. Je crois que c'est un impératif quand nous, pas simplement quand nous avons à décider quelque chose, c'est-à-dire dans les grandes choses à décider dans notre vie, mais dans tous les moments de notre vie, ne serait-ce que poser le pied en bas du lit le matin. C'est important aussi, cela. Faire confiance à Dieu dans nos projets. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui. Seigneur, voici mon projet, je te le remets, j'aimerais qu'il soit à ta gloire. Faire ce pas indispensable de confiance, totale, qui seul va permettre d'avancer, peut-être dans une direction inconnue, peut-être une direction qui est inconnue, du moins pour vous, pour nous. Mais c'est seulement dans cette direction qu'on pourra laisser Dieu marcher en éclaireur sur le chemin qu'on veut prendre. Et lui nous montrera si c'est le bon chemin. Il est important de bien se concentrer et de prévoir de faire un seul pas à la fois. Faire le pas, mais le faire convenablement, pour pouvoir faire ensuite le deuxième. D'abord faire celui-là, ce premier, mais d'abord le faire correctement et complètement. Après seulement viendra le temps où il sera possible et nécessaire d'avancer le second pied. Combien notre fermier aurait pu méditer sur cet ordre de Jésus cité deux fois dans les Colossiens et dans les Éphésiens, racheter le temps. Il en aurait eu besoin, notre fermier, de racheter le temps pour faire tout ce qu'il avait à faire et labourer son champ. Faire ce premier pas chaque jour avec Dieu, dans chacun de nos actes, de nos actions, de nos démarches, c'est entrer dans le temps de Dieu. Dans le temps avec Dieu, c'est être en marche avec lui, c'est être en marche tout court, c'est être vivant avec lui parce qu'il est vivant. Mais cela ne veut pas dire que parce que je fais ce premier pas, puis ce deuxième, et je me marche avec Dieu, cela ne veut pas dire que tout va devenir rose et que le ciel va toujours être bleu. Le Christ n'a jamais promis que ceux qui le suivraient seraient beaux, riches et en bonne santé. Jamais. Ça, vous ne trouvez pas dans la Bible. C'est Coluche qui disait ça très bien. Il disait, il y en a qui seront riches, qui seront blancs et qui seront en bonne santé. Et puis d'autres qui auront une autre couleur de peau, qui seront pauvres et malades. Et pour eux, ça sera très dur. Mais oui, mais Dieu n'a jamais promis que nous aurions tout. Simplement, il a promis que nous aurions ce qu'il nous faudrait pour vivre si nous faisons ce pas avec lui et si nous marchons avec lui. Il a promis d'être le Fils de Dieu présent chaque jour, justement pour nous épauler, nous guider, pas à pas dans notre vie, là où il nous placera. Mais il est important de savoir l'écouter et entendre qu'il nous montre que le chemin que nous prenons est le bon ou n'est pas le bon. Et peut-être ne pas insister, mais revenir encore une fois à ce pas de foi initial, et peut-être alors le refaire de nouveau. La vie du disciple est, qu'on le veuille ou non, une remise en question de tous les instants. Pas une remise en question sur la part du salut qui vient de Dieu, mais une remise en question de tous les instants sur notre vie de disciple. Parce que nous sommes constamment indécis. Pas parce que nous sommes constamment incapables de prendre des décisions, non, mais parce que nous prenons, nous, nos décisions et nous sommes souvent indécis et nous allons comme le vent nous pousse, comme le monde nous pousse, comme le temps nous pousse. Mais une remise en question est importante avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Dieu nous considère comme des gens intelligents. Avec l'intelligence qu'il nous a donnée, qui nous permet de le questionner sur nos projets, les lui soumettre, et lui remettre totalement. Alors, bien des personnes opposées à la religion, ou bien des personnes qui se tâtent par rapport à la foi, par exemple, voire qui sont critiques, diront « Oui, mais vous, chrétiens, ce pas de foi que vous faites, c'est tellement un grand saut dans le vide que moi, je ne pourrais jamais le faire. J'ai besoin de voir ce qu'il y a de l'autre côté, de toucher ce pas dans le vide. » Il y a une image qui me semble représenter cet état. Et si un jour vous faites cette réflexion, vous pourrez l'employer, vous verrez, elle est toute simple. Une image qui me semble bien représenter cet état est la totale confiance en un Dieu avec qui ce pas ne comporte aucun risque. Ce n'est pas du tout un pas dans le vide. C'est l'image du trapéziste. Tout le monde a déjà vu un trapéziste. Moi, je suis baba, comment ils font, hein. C'est impressionnant, un trapéziste. Il se balance, il tient sa barre, il se balance une fois, deux fois, trois fois. Il est suspendu dans les airs. Il tient ferme sa barre, hein, vous avez vu, hein, il le tient son trapèze. Mais à un moment, il va devoir lâcher ce trapèze, le lâcher, pour en agripper un autre. Mais bien souvent, il ne le voit pas, l'autre. Parce qu'il est de dos, parce que l'autre trapèze est beaucoup plus haut, parce qu'au moment où l'autre trapèze arrive dans sa vue, lui, dans l'autre sens, enfin, il y a un tas de choses. Vous remarquerez ça, c'est intéressant. Et à un moment, ce trapéziste, il n'a plus d'appui du tout. Il a lâché sa barre, il est seul dans le vide. Il pense à quoi, vous croyez? En quoi il a la foi, ce trapéziste? En quoi il a la foi? Eh bien, l'espace d'une seconde, il est pendu en l'air. Il a la foi que l'autre qui avait l'autre trapèze de l'autre côté, il l'a bien lancé. Et en fait, il y a une marge, vous regardez toujours, il y a une petite marge, le trapèze il arrive là un peu plus bas, et la main descend dessus et tranquillement, ça arrive des fois qu'il tombe quand même. Hein. Mais à un moment, il a lâché sa barre, ce trapéziste. Et nous, si nous ne lâchons pas ce que nous avons, nos traditions, nos habitudes, nos certitudes, nos conforts, nos arrière-pensées, nos jugements, notre orgueil. Mettez tout ce qui vous tracasse là-dedans, tout ce qui vous embête là-dedans. Et j'espère que je vous embête en vous disant ça. Mais tout ce que nous, on ne veut pas lâcher, pour pouvoir saisir la vision de Dieu, pouvoir attraper cette barre qui est solide, ce deuxième trapèze qui est solide. Nous donner alors comme le trapéziste. Le trapéziste, il a attrapé ce deuxième trapèze parce qu'il a lâché sa barre. Mais qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas lâché sa barre? Eh bien, il va continuer à se balancer, puis ça va venir dégressif, jusqu'à l'immobilité totale. Puis après, on va le retrouver quelques mètres plus bas, quand il sera fatigué, simplement. Mais c'est ça aussi, si nous ne lâchons pas dans notre vie de tous les jours tous les obstacles à saisir le trapèze que Dieu nous donne, notre mouvement va s'arrêter gentiment. Ça veut dire qu'on va perdre gentiment notre foi, ou perdre notre envie, ou perdre notre oser, notre façon d'oser. Et puis, on va devenir un chrétien immobile, et on va lâcher, et on va tomber. Et on va tomber en bas, de nouveau. Notre pas de foi de chaque jour, nos pas de foi de chaque jour, sont chacun des actes de confiance dans un Dieu qui ne veut pas nous faire sauter dans le vide. Dieu est ce deuxième trapèze qui nous attend. uniquement. Donc ce pas de foi n'est pas un pas de foi dans rien. Tu n'as pas de foi dans les mains de Dieu. Simplement dans les mains de Dieu. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Un pas de foi dans les mains de Dieu. Simplement. Il n'y a pas de vide avec Dieu. Dieu occupe dans notre cœur, dans notre âme, ce qui serait en forme de vide. C'est Dieu qui veut l'occuper. Quand on dit « Sois le maître en moi » ou « Viens régner dans mon cœur », c'est ça. C'est « Viens prendre cette place de vide en moi ». Dieu est celui qui contrôle tout, qui maîtrise tout, qui maîtrise toute la création. Psaume 95, 4, « Il tient dans sa main les gouffres de la terre, les crêtes des montagnes sont à lui ». Vous vous rendez compte, s'il tient tous les gouffres de la terre dans sa main et les crêtes des montagnes, notre vie à côté, c'est petit, hein ? C'est tout petit. Savez-vous dans quel livre de la Bible il y a plus souvent le mot, il y a plus le plus grand nombre de fois le mot projet ou projeté ? Ah ! Dans quel livre de la Bible on va trouver ça ? Projet ou projeté ? Pas d'idée ? Jean-Michel ? Ah non ! Ah ! Eh bien, c'est dans le livre de Job. Eh oui, le livre de Job, entre Job, le livre de Job. On en trouve dans le livre Job, on en trouve dans le livre de Jérémie. Hein, c'est incroyable, juste incroyable. Job a confiance, il a foi en Dieu. Et pourtant, s'il y a une personne qui aurait pu râler après Dieu, c'est bien Job. Job qui avait tout ce que pouvait imaginer un homme. Il a fallu qu'il perde tout pour retrouver plus encore. Et puis Job dit, entre autres, hein, 42:12, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. » Je sais que tu peux tout, qu'aucun projet n'échappe à tes prises. C'est Job qui dit ça. Alors relisez le livre de Job, c'est un petit peu long, mais relisez le livre de Job, c'est vraiment fort ce que dit Job. Un autre personnage biblique a aussi expérimenté la foi avec Dieu. Il en fallait de la foi à Daniel, pour faire le pas d'entrer dans la fournaise, pour se laisser enfermer dans la fosse aux lions. Il en fallait aussi une dose de foi à Daniel. Savoir que Dieu était vraiment au milieu de cette fournaise. C'est impressionnant, hein ? On n'arrive pas à s'imaginer. On n'arrive pas à s'imaginer ça. Daniel définissait ainsi son Dieu, le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Qu'est-ce qu'on risque avec un Dieu comme ça ? D'autres personnages pourraient aussi être pour nous des exemples de pas de foi. Abraham fit le pas de marcher avec Dieu, alors que, avec la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les grains de sable du bord de la mer, il n'avait pas d'enfant. Vous vous rendez compte ? La promesse, il avait 100 ans, il n'avait pas d'enfant, sa femme était stérile. Et pourtant, il se met en marche avec cette promesse de Dieu, ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Et pour cela, il doit tout laisser et quitter son pays. Romains 4, sans faillir dans sa foi, il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant pleine conviction de ce qu'il promet, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Il dut par la suite se mettre en marche avec son fils, vous le savez, pour le sacrifier. Encore une marche de foi. Son seul fils qu'il avait, qu'on lui avait donné, il fallait le sacrifier. C'est la foi de Rahab, la prostituée, qui va accueillir les envoyer de Josué, simplement, et les évacuer par un autre chemin pour qu'ils aient la vie sauve. Les faire sortir pour qu'ils aient la vie sauve. Et cette ville va être détruite, et tout le monde dans cette ville va perdre la vie, sauf Rahab et sa famille. Elle a réussi à sauver les envoyés de Dieu, elle qui n'était pas de condition à avoir grâce aux yeux de Dieu, et elle a sauvé sa propre vie et la vie de sa famille. Il y a un bel, belle image aussi sur la vie éternelle et la façon dont Dieu veut nous sauver aussi. Quel pas de foi aussi pour ces 10 lépreux qui s'adressent au Christ et qui lui disent, qui viennent vers lui pour qu'il le sauve, pour qu'il les guérisse. Et puis, il les envoie, il ne les guérit pas, le Christ. Il ne les guérit pas, je sais pas, vous lirez le texte, hein, c'est dans Luc 17, 14, il ne les guérit pas. Il les fait venir et dit, allez vous montrer au prêtre. Simplement. Je pense que les lépreux auraient vraiment eu envie d'entendre de la part du Christ, je vais vous guérir. Non, allez vous montrer au prêtre. Vous savez ce que c'était pour des lépreux d'aller se montrer au prêtre? D'abord, ils n'avaient pas le droit, ils enfreignaient la loi. Et puis, ils étaient les pestiférés, c'est vraiment le cas d'employer ce mot-là. Ils vivaient à côté, ils étaient rejetés totalement, plus de contact avec la société. Ils devaient rester là où ils étaient. Et on leur demande d'aller se montrer au prêtre. Et ils y vont. Et en route, il nous est dit, Luc 17, 14, allez vous montrer au prêtre. Et en route, ils furent guéris. S'ils n'avaient pas fait cet acte de foi, et là c'est du physique, hein, de faire un pas devant l'autre pour aller se montrer au prêtre, est-ce qu'ils auraient été guéris? Moi je ne vous donne pas la réponse, mais vous la trouverez dans vos pas de foi. Il y a aussi l'exemple de la femme de Lot, où on va vers l'avenir, et où Dieu dit, ne vous retournez pas sur votre passé. J'ai reçu, quand j'étais petit, j'avais une douzaine d'années peut-être, à Noël, un livre qui s'appelle « Le catalogue des objets improbables ». C'est un livre humoristique et il y avait dedans un qui m'a toujours beaucoup plu, c'était un rétroviseur panoramique pour un vélo. Mais c'était un rétroviseur qui faisait 2 mètres de large, sur 1 mètre de haut et qu'on mettait devant le guidon pour voir si quelqu'un nous suivait. C'était super. C'était pas très facile pour aller devant. Des projets de Dieu pour nous, pour avancer. Pour terminer, j'aimerais nous rappeler quelques points de repère qui me semblent importants pour aller de pas de foi en pas de foi, en marche avec Dieu. D'abord, il y a l'investissement, s'investir. Avoir conscience que notre foi et les pas qui iront avec sont un réel investissement sur l'avenir. Alors, indépendamment, cet investissement va être personnel, va être différent. Il peut être intellectuel, spirituel, il peut être sentimental, il peut être matériel, il peut être financier. Mais c'est un investissement sur l'avenir, sur demain. Ce n'est pas quelque chose qui va rester ancré au passé. C'est l'investissement de l'équilibre de la vie avec Dieu. Ensuite, il y a le renoncement. Le renoncement à notre propre sécurité, c'est pas en comparaison avec ce pas dans le vide, mais c'est notre propre sécurité qu'on pense, nous, obtenir par nous. Ce matin, en me levant, j'avais la petite page du calendrier ouverte au 1er juillet, et il y avait un verset dessus qui disait, et ça m'a vraiment frappé ce verset, je ne l'avais jamais remarqué comme ça, il est où ce verset? Voilà, il est là. Il disait, nous n'avons rien apporté dans ce monde, ça veut dire en naissant, nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien en emporter. C'est peut-être tout bête ce verset, mais on est venu avec rien, on est venu tout nu dans le monde, on est né tout nu, sans rien, et on repartira aussi sans rien de ce monde. Mais c'est une invitation à se projeter dans le projet d'avenir avec Dieu, dans ce projet de foi avec Dieu. Renoncer à ce que nous prenons comme assurance, nous, dans notre vie. La prime d'assurance vie, elle a été payée à la croix par le Christ. Notre prime d'assurance vie, une fois pour toutes. Il n'y a qu'un versement. Il est fait. Ça, nous le savons. Ensuite, il y a la fidélité. La fidélité, c'est important. Fidélité dans nos convictions, sur les bases de notre foi. Savoir en quoi on croit. On a recommencé à faire des cultes, vous avez vu, sur Dieu, sur le Christ, sur l'Esprit, pour reprendre vraiment, pour retrouver les bases de notre foi. Où sont les bases de notre foi? Où on doit s'accrocher? Et c'est important dans notre fidélité d'être fidèle à ces bases de foi. Fidèle dans nos bases de foi, mais fidèle dans nos engagements. Dans nos engagements de tous les jours et nos engagements de foi. Rappelons-nous que Dieu est fidèle. Dieu, lui, est fidèle. Et il attend de nous une attitude à son image. Il nous a fait à son image. Dieu attend que nous soyons fidèles. Ensuite, il y a l'écoute. Un apprentissage pour écouter Dieu. Tout un apprentissage qui met souvent la vie. Hein. Un apprentissage, écouter Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, au travers des frères et des sœurs, au travers des conseils des amis chrétiens. Écouter Dieu. Dans l'échange et dans les conseils. Ça veut dire aussi qu'on a besoin d'être ensemble, écouter Dieu. Qu'on a besoin de se retrouver pour parler ensemble, pour vivre ensemble, pour partager ensemble. Ensuite, il y a une chose qu'on aime moins, c'est la remise en question. Notre remise en question. On nous remet en question dans le milieu professionnel. Hein. On ne se gêne pas pour le faire, crûment, vertement, avec des mots pas toujours très agréables. Et c'est souvent trop tard d'ailleurs qu'on le fait. Mais en tout cas, on le fait. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas tous les jours dans notre milieu chrétien, nous remettre en question dans nos attitudes? C'est absolument quelque chose de positif, se mettre en question. Ce n'est pas du tout quelque chose qui enfonce, mais c'est au contraire quelque chose qui va vers le devant. C'est s'arrêter, faire le point et réfléchir pour savoir comment on avance. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire demain? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce n'est pas quelque chose où on va se taper la tête contre les murs, mais quelque chose où on va simplement réfléchir et se poser, et Dieu nous aidera. Mais ça sous-entend aussi, et c'est le prochain élément, d'avoir une ouverture d'esprit. De ne pas rester campé sur des positions qui seraient fixes et qui nous empêcheraient d'avancer. C'est un élément nécessaire, l'ouverture d'esprit. Regarder, voir, comprendre qu'on n'est pas seul. Qu'il y a d'autres frères autour, d'autres gens qui pensent différemment, qui voient différemment, qui vivent différemment, mais qui sont sauvés par cette même assurance vie et qui ont le même projet de vie que nous. Ça, c'est une découverte sensationnelle. Moi, je suis reconnaissant tous les jours des frères et sœurs de l'Église qui apportent, chacun apporte à son niveau, à son idée, quelque chose qui vient s'emboîter dans ma partie de puzzle à moi. Et c'est important de le savoir. Important donc de ne pas aussi rester campé sur un passé, si florissant soit-il, mais souvent figé, qui bloque aussi, qui nous interdit aussi souvent le pas en avant. Souvent la tradition nous freine dans nos pas, dans nos habitudes, dans notre démarche, et nous bloque complètement, nous arrête complètement. Et là aussi on doit être attentif, et là aussi on doit se remettre en question et avoir l'esprit ouvert. La marche en avant ou l'action, c'est le point qui est important. Vous avez compris que l'évangile va avec action, la foi va avec action, avec chemin, avec marché. Un chrétien qui n'avance pas est dépassé par les autres. Ça, quand on marche un groupe ensemble, celui qui s'arrête, les autres continuent. Après, il a du retard à rattraper, ce n'est pas facile. Mais un chrétien qui reste et qui n'avance plus, finalement il recule complètement, et il perd tout à fait ses repères, et il perd ses contacts avec ses frères et sœurs, et c'est difficile pour lui de retrouver des contacts. Prions pour ceux qui perdent les contacts aussi avec les frères et sœurs. Attention toutefois, à l'inverse, à l'activisme, à ce qui serait que de vouloir marcher pour marcher, toujours, ou courir pour courir. Non, faisons attention. Parce que dans ces cas-là, on marche bien souvent pour soi, ou pour se donner bonne conscience. Mais bien souvent, cela nécessite aussi peut-être de revenir à un premier pas de foi, de nous remettre en question sur nos buts, sur nos engagements, voire faire un arrêt et une réflexion. Une réflexion pour peut-être faire un retour, mais un retour plein de joie au premier pas avec le Christ. Parce que le premier pas avec le Christ, c'est un pas joyeux, puisqu'il annonce un deuxième pas. Et je terminerai avec la communion. Communion, la communion c'est le partage du pain aussi, mais la communion c'est d'abord vivre ensemble, c'est partager tout ensemble, les bons moments, les mauvais moments, les moments difficiles. Et Dieu est présent dans la communion, parce que la communion c'est d'abord le partage avec Dieu, avec son Fils qui est mort pour nous, et qui est mort pour renouer pour nous ce lien avec notre Créateur. Communion, bien entendu, avec les frères et sœurs que Dieu aura mis sur notre chemin qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Moi, j'ai du plaisir ce matin à avoir la maman de Sarah qui est là. On est en communion ensemble. On ne se connaît pas du tout. Et en pensant à l'Égypte ces derniers temps, plus depuis un ou deux jours encore, et en pensant aux chrétiens qui sont en Égypte, on a la réflexion souvent de parler de ses frères et sœurs, mais ses frères et sœurs, on ne les connaît pas, et pourtant on prie pour eux. Et peut-être ici, dans notre pays de Gex, on aurait du mal à vivre avec eux, parce qu'on les connaîtrait trop bien, ou parce que notre façon de les voir ferait qu'on dirait, ben ceux-là, ils croient ça, ceux-là, ouais, moi je ne crois pas vraiment comme eux, etc. Mais non, et on ne les voit pas, mais on sait qu'ils ont besoin de nos prières. Et c'est ça la vraie communion. C'est sans voir et sans préjuger, pouvoir partager et pouvoir poser cela vers Dieu. Et on doit continuer à prier pour tous les chrétiens de ces pays. J'aimerais vous laisser, pour terminer, un petit passage de conclusion que je reprendrai pour la bénédiction, parce que je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est de nouveau une personne qui dans la Bible est une personne c'est un prophète, mais qui a aussi beaucoup crié et qui s'est aussi beaucoup plaint, c'est Jérémie. Et pourtant dans Jérémie on trouve aussi beaucoup, c'est le deuxième livre dans lequel on trouve le plus grand nombre de projets ou de mots projetés. Jérémie dit au chapitre 29 au verset 11, « Moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet. » Et c'est un oracle du Seigneur, ça veut dire c'est une déclaration vraiment très très forte. Projet de prospérité et non de malheur. Et lisez cette dernière phrase. Je vais vous donner un avenir et une espérance. C'est ni plus ni moins le plan que Dieu a pour nous, pour autant que nous fassions ce premier pas et les suivants avec lui. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence et si nous deux personnes veulent prier qu'ils le fassent vraiment librement. Seigneur, nous voulons te prier que tu nous guides chacun et que tu nous aides à délier nos pieds qui souvent sont attachés deux par deux, pour pouvoir marcher avec toi, un pas l'un après l'autre, en te remettant notre vie, en te rappelant notre confiance, Seigneur, et en te laissant agir en nous. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous guides, jour après jour, pas à pas, en chemin avec toi. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre en route, à nous remettre en route et à marcher ensemble avec les frères et sœurs dans ton amour, dans le bonheur et dans tous les projets que tu as fait pour chacun de nous. Nous te prions pour tous ceux qui passent par des moments difficiles, Seigneur, pour qui souvent le mot projet est quelque chose qu'ils n'osent même pas regarder. Nous te prions, Seigneur, que tu donnes de l'espoir. Tu as promis d'avoir pour nous un projet d'espoir et de l'espérance. Et nous te prions pour tous ceux qui en manquent, Seigneur, tous ceux qui sont près de nous. Nous te les remettons. Seigneur, agis dans le cœur de chacun et montre-nous ton chemin. Montre-nous où nous nous mettons en chemin avec toi. Amen. Je vais partager avec vous les quelques annonces que nous avons cette semaine. On entre vraiment dans la semaine de vacances. Il n'y a qu'une réunion cette semaine. Je crois qu'il y avait une bêtise, là, j'entends Thibault qui rigolait, là, je crois qu'il y avait un gag sur les vacances. On n'a qu'une réunion cette semaine, c'est une réunion de conseil, priez pour le conseil, ça sera on va aussi freiner un petit peu parce qu'on a besoin aussi de souffler, mais priez pour le conseil, on a aussi une rencontre prévue d'une journée complète dans cet été pour reparler aussi des projets de l'Église. Donc priez pour le conseil, la rencontre a lieu demain soir. Et puis notre dimanche prochain, notre culte. Par contre, samedi, c'est pas une activité d'église, mais on parle de marcher par la foi et de faire des pas de foi. Je vous invite à faire un pas de foi samedi, un pas pratique, un pas musculaire samedi. Jonathan, qui habite à Bellegarde, vous connaissez, qui est venu quelques fois, qui malheureusement, sa femme a un état de santé qui ne lui permet pas d'être beaucoup présent, mais Jonathan essaye de venir le plus possible, se rapproche un petit peu de nous et déménage à Peuron. Et déménage samedi matin. Jonathan déménage samedi matin. Donc Jonathan a besoin de bras et de biceps samedi matin, de 9h à 13h. Au fond de la salle, il y a son téléphone. Mais ce qu'on se dit, c'est que si on met juste la pancarte avec le téléphone de Jonathan, On va partir sans prendre le téléphone. Alors, j'aimerais vraiment qu'on soit quelques-uns pour aider Jonathan samedi. 9h, 13h en gros. Voyez, vous savez le temps qu'il faut pour faire des ménagements. Plus on est fou, plus on est de fou, plus on rit, on dit pour un déménagement. Hein. Et c'est vrai que si on est 5, 6, 7, ça va être un truc, un jeu d'enfant, vous le savez. Donc ça va être super et Jonathan sera content aussi. Alors c'est Pierre qui va centraliser les téléphones. On vous invite vraiment à réfléchir, à donner 3, 4 heures de temps, samedi matin, Bellegarde, Peuron, pour filer un coup de main à Jonathan. Voilà, un petit pas de foi. Priez ce soir, demandez à Dieu ce que je peux être samedi à Bellegarde pour aller à Peuron après. Voilà, un tout petit détail. Mais c'est important hein, qu'on le fasse. On a tous plus ou moins du temps. On peut aussi donner du temps pour aider Jonathan. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne viendront pas aider Jonathan, j'ai aussi du travail. Aussi. Vous pouvez prier, passer du temps pour prier. Le groupe de jeunes a distribué sur la commune 600 flyers pour le club d'été. Alors là, merci déjà pour le groupe de jeunes. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est à vous de prier pour que ça fonctionne. OK ? Donc voilà, les deux pas sont faits. Vous avez vu, c'est Dieu qui agira maintenant. Mais Dieu n'agira pas si le deuxième pas n'est pas fait. Donc faisons ce deuxième pas ensemble. Voilà. J'ai pas oublié d'autres annonces. Alors je vous inviterai à vous lever et je vous relirai. Donc ces deux versets qu'on a déjà lus ce matin, qui sont ce verset de Timothée qui nous rappelle que nous n'avons rien et que ce que nous le devons à Dieu. Nous n'avons rien à porter dans le monde, aussi nous n'en emporterons rien de ce monde. Et puis ce verset, dernier verset de Jérémie qu'on a lu, « Moi je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, et Dieu nous parle à chacun de nous, à votre sujet, projet de prospérité, non de malheur, je vais vous donner, partons aujourd'hui de cette salle avec ce verset au cœur, je vais vous donner un avenir et une espérance. » Une bonne semaine, pas un bon dimanche, on nous a dit qu'il ne fallait pas dire un bon dimanche, une bonne semaine et un bon avenir à chacun.